Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
D'avoir un objectif, des objectifs, c'est super dans la vie. Mais de tracer un trait tout droit entre là où je pars et où j'arrive, clairement, c'est pas possible. Soit on arrive à notre objectif, soit on n'y arrive pas. Au final, c'est pas ce qui sera le plus important, mais c'est justement tout ce qu'on aura expérimenté. Tout ce qu'on se sera autorisé à vivre, en fait. L'innovation dans le hasard.
On lui disait qu'elle ne ferait pas de longues études, qu'elle n'était pas faite pour l'école, qu'elle ne rentrait pas dans le moule. On l'appelait aussi la ministre de la joie de vivre. Et cette joie qui l'habite, cette relation intime qu'elle a nouée avec la vie, lui ont permis d'écouter ses rêves avec plus d'importance que les avis que l'on projetait sur son avenir. Alors Mathilde a obtenu haut la main un master en psychologie et éveille chaque jour de nouvelles personnes à se reconnecter à leurs émotions. Ces émotions que l'on cherche souvent à cacher, à refouler, à lisser. La peur, la tristesse, la colère. Ces émotions, Mathilde nous invite à les analyser, à les accepter, à les gérer et à les aimer même. Pour qu'elles ne soient plus un frein, mais de réels tremplins pour évoluer et s'accomplir. On parle dans cet épisode d'hypersensibilité, de l'importance de faire des erreurs, d'extraordinaire dans notre ordinaire, d'amour et de blocage que rencontrent les jeunes aujourd'hui. Cet épisode est riche, intime, nécessaire et j'espère qu'il vous aidera dans vos propres cheminements.
Donc voilà, on y va.
Cool, on y va.
Salut Mathilde.
Salut Victoria.
Je suis ravie d'être chez toi, du coup à Biarritz. On s'est rencontrés l'été dernier sur la Côte Basque grâce à des amis d'amis. Et aujourd'hui on est ici, je suis vraiment ravie de t'avoir. Alors accrochez-vous, je ne veux pas vous perdre dès les 10 premières secondes, mais Mathilde, tu es psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle.
Yes.
Donc on va beaucoup parler d'émotions et de psychologie dans cette interview. Mais avant toute chose, pour comprendre ton attrait à ce milieu-là, on va revenir à ton enfance, si tu le veux bien. Quelle petite fille tu étais quand tu avais 7 ans? Tu connais cette question, si tu as.
Oui. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, pour revenir quelques années avant, mes parents m'appelaient la ministre de la joie de vivre, voilà, pour mettre un peu le tableau. Et à 7 ans, du coup, je suis au CP, j'adorais aller à l'école, mais l'école était un peu moins fan de moi, même si j'ai eu une super maîtresse, voilà, Solange, je m'en souviens encore.
Pourquoi l'école n'était pas fan de toi?
Bah, je pense que je rentrais pas forcément dans le moule, et heureusement que j'ai eu cette super maîtresse en CPCE1. Mmh. Elle m'a beaucoup apporté, en fait, elle a vite compris et elle a vite rassuré mes parents que ça allait pas être forcément évident, mais qu'elle voyait tout le potentiel que j'avais. Alors, je pense que c'est au CP, j'ai été diagnostiquée dyslexique et j'ai commencé du coup à faire, aller chez l'orthophoniste, voilà. Mais j'ai toujours aimé aller à l'école. Alors, bien sûr, pour les copains à cet âge-là, j'avais un côté un peu leader. J'aimais beaucoup les récré et jouer, mais j'aimais aussi beaucoup apprendre. Mais je sais que c'était compliqué.
Et alors, pourquoi ce surnom ministre de la joie de vivre?
Faudrait poser la question à mes parents. je rigolais tout le temps. Je rigolais tout le temps, je faisais des blagues. Et ouais, j'aimais bien faire rire ma famille, quoi.
Trop chouette. Et tu as enchaîné par des études, donc on prend quand même plusieurs années.
Oui.
Tu as fait des études de psychologie.
Ouais.
Pourquoi? Pourquoi ce choix? Est-ce que tu as toujours aimé ça? Est-ce que tu as toujours voulu être psychologue?
Pas du tout. J'ai voulu être maîtresse. Ensuite, j'ai voulu être comédienne. Ça m'a pas duré très longtemps, mais j'ai fait beaucoup de théâtre. Mmh. J'ai voulu être styliste. Enfin voilà, je crois que je suis passée par pas mal d'envies de métiers différents. Et comme je le dis, psychologue, je l'ai pas choisi, mais ce métier m'a choisi dans le sens où je me souviens même pas du moment où tu te dis ah c'est ce métier que j'ai envie de faire. Mmh. Alors je pense que c'est en terminale qu'il y a cette idée qui m'est venue. Je ne saurais pas expliquer où et comment. J'en ai parlé à mes parents. J'étais à Grenoble à ce moment-là pour le lycée. Du coup, là, je me suis renseignée ensuite sur le cursus. Après, bien sûr, on n'est pas psychologue par hasard. Rétrospectivement, je peux dire que dans ma personnalité, j'ai toujours eu cette envie d'écouter. Vraiment, voilà, si je remonte même, tu vois, des amis d'enfance, je les écoutais énormément. Je sais pas si je donnais forcément des conseils, c'est pas vraiment le souvenir que j'en ai, mais en tout cas, j'étais présente pour eux. En fait, ça m'est venu comme ça, et de par mon environnement familial, voilà, j'ai pu être confrontée à certaines choses qui font que, du coup, j'ai été peut-être sensibilisée, tu vois, un peu tôt à certaines émotions. Et puis après, voilà, j'ai fait des études de psychologie, sachant que beaucoup de profs m'ont dit que je ne ferais pas d'études longues. Je m'en rappelle très bien, Madame Alm en CM1, qui au collège, j'ai moins de souvenirs des prénoms, mais en 3e, qui m'ont fait comprendre qu'il ne fallait pas trop espérer faire des études longues. Donc là, je remercie mes parents, vraiment. Et puis d'autres profs, bien sûr, qui ont cru en moi.
Donc combien d'années d'études de la psychologie ?
Alors psycho, c'est 5 ans.
Okay.
Moi, j'ai fait dans une école privée, école de psychologue praticien à Lyon, qui existe aussi à Paris. Je peux aussi faire la fac. Là, je pense que j'aurais mis peut-être plus de temps. C'est rare de faire en 5 ans à l'université, parce que franchement, les passages entre licence, master sont pas évidents. Donc, j'aurais peut-être mis un peu plus d'années. Et après mes 5 ans d'études, j'ai décidé de me former aux thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Et donc là, j'ai fait un DU 3 ans à Lyon 1.
D'accord. Mmh. Dans les débuts de tes études, est-ce que tu as directement senti que oui, c'était ça, ok, j'ai fait le bon choix, ou t'accrochais peut-être pas tant que ça, tu disais mince, j'aurais peut-être dû faire autre chose?
Si, j'ai accroché, mais il faut savoir que la première année, alors c'est dense, hein, psychoprate, on a vraiment, c'est le côté école, donc on a cours de 9 à 18, on a 15 matières de souvenirs, hein, 15 matières en examen, et première année, 4 matières au rattrapage.
Ah oui, d'accord.
Et là, je me vois m'effondrer, me dire mais pour qui tu t'es cru, enfin, tu pourras jamais faire d'études, tes profs avaient raison.
Oh.
Ah ouais, grosse remise en question. Et puis en fait, j'ai compris que je ne savais pas travailler, il me manquait la méthodo.
D'accord.
La chance dans une école privée, c'est que tu es en petit groupe, on est 50 par promo. Mes amis ont toujours été des très bons élèves. Et là, je me suis inspirée, en fait. Je suis allée voir, justement, leurs copies, poser des questions sur comment ils travaillent. Et du coup, je me suis construit une méthodo. Et ça, ça a été super enrichissant. J'aurais bien voulu apprendre un peu plus tôt. Après, j'ai eu un autre moment, un peu de doute, parce que mon école était très psychanalytique. Et je me retrouvais pas forcément dans ce courant-là. Et on a un prof, Damien Fou, qui est venu de Paris, qui est psychologue ou psychiatre, j'ai un doute, en TCCE. Et qui, voilà, ce cours a été une révélation parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres approches. Et là, je m'y suis retrouvée. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, il y a plein de façons différentes d'être psychologue.
Donc, ces études, tu les as faites à Lyon. Et tu as débuté ta carrière en libéral là-bas, à Lyon toujours. Et en 2016, tu décides de venir t'installer ici, à Biarritz. Pourquoi ce choix ?
Bonne question. Donc déjà, à 23 ans, monter son cabinet, quand t'es post-diplômé, c'est pas quelque chose sur lequel on te pousse à faire ces choix-là. Pour moi, c'était une évidence, encore une fois, de faire du libéral. Et le libéral est venu à moi par un cabinet pluridisciplinaire, l'Abri des Savoirs, qui existe toujours. Donc voilà, je pouvais pas dire non, j'y suis allée, c'était une super expérience. Ma vie à Lyon était top, je me voyais continuer ma vie là-bas. Et puis, je pense comme tout début de création d'entreprise, on oublie ce que c'est les vacances, les week-ends. Et une collègue m'en a fait part. Et du coup, j'ai décidé de prendre des vacances. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris des vacances, une semaine de surf dans les Landes. Mais alors le surf, j'y connaissais rien du tout. Voilà, je pars une semaine qui a été une semaine de révélation. J'ai rencontré des super personnes, notamment Eva, qui est encore amie. Enfin voilà, on est amies. Elle est illustratrice, graphiste. Et elle a emménagé un an après moi sur Biarritz. Elle était sur Paris.
Et donc, coup de cœur pour cette ville. Et tu t'es dit, je déménage, je viens ici.
Et du coup, je suis rentrée de ces vacances en appelant ma famille, mes proches. Et je leur ai dit, vous savez quoi ? Je vais déménager à Biarritz en septembre 2017. Donc, un an et demi après, tu vois, de quoi bien faire les choses et tout. Et puis, j'ai un ami, Pierrick, qui me dit, mais Mathilde, pourquoi attendre un an, en fait ? Je fais, t'as raison. Et donc, Le 28 avril 2016, j'ai décidé de déménager en septembre 2016 à Biarritz.
Il y a 5 ans, ok. Waouh.
Ouais.
Mathilde, ce podcast, il s'adresse principalement aux nouvelles générations. Et donc, on va faire un focus sur les jeunes. Toi, en tant que psychologue, quels grands enjeux, quelles grandes questions tu retrouves chez les jeunes que tu accompagnes au quotidien?
La première phrase qui me vient, c'est du sens, qui s'accorde sûrement aux jeunes, mais d'autres s'y retrouveront. Ce qui s'est passé notamment avec le confinement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment des étudiants, qui ont remis en question en fait, leur choix d'études dans une perspective d'un métier futur. Est-ce que ce métier a pour moi du sens? Et je pense que c'est une question qui est pertinente de se sentir aussi utile pour les autres. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Voilà, c'est la première chose qui me vient là suite à ta question.
T'as l'impression que les jeunes savent comment s'y prendre pour trouver ce qui leur plaît ou pas? Ou qu'ils sont au contraire un peu perdus?
J'ai un peu les deux dans ma patientèle, sachant que c'est un échantillon qui n'est pas du tout représentatif, donc c'est très subjectif ce que je vais dire. Je sens qu'il y en a qui vont avoir une forme de passion et une forme un peu d'évidence. Alors qui peut être en lien avec les parents, mais pas forcément. Et puis alors il y en a, ils sont perdus. Et notamment, tu sais, il y a cette pression. Là, j'en ai eu pas mal il y a quelques mois parce qu'il y avait les choix à faire.
Oui.
Et la pression que eux se mettent, que l'école leur mette, et leurs parents en fait, même de façon indirecte. Toi, j'ai beaucoup de parents qui me disent non, mais nous on lui met pas la pression. Mais bah si les deux parents ont réussi professionnellement, socialement. Forcément, indirectement, en fait, ça peut mettre une certaine pression à leurs enfants. Cette pression qui n'est pas forcément que négative. Mais je crois qu'il y a un peu cette croyance qu'il faut tout de suite savoir ce qu'on a envie de faire, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, c'est David Epstein qui en parle dans une conférence TED, qui nous donne plusieurs exemples et pas mal d'exemples de sportifs. Comme quoi, c'est pas, si on regarde en fait, à la fin d'une carrière, le plus ou la plus heureux ne sera pas forcément la personne qui s'est spécialisée le plus tôt. Mais au contraire, quelqu'un qui aura exploré plusieurs choses. On a cette étude qui nous dit qu'il faut 10 000 heures pour être bon dans un domaine. Voilà. Et c'est vrai que chez les sportifs, on a plusieurs exemples. Et au contraire, en fait, de se laisser libre de pouvoir explorer plein de choses dans des domaines très différents. Voilà, ça fera forcément lien. Donc... ouais, le droit de se tromper, bien sûr. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais ouais.
Et j'ai une question après sur l'échec.
Super.
Tu es spécialisée dans les émotions, qui est un vaste sujet. Pourquoi on a autant de mal à parler de nos émotions? Comment on les accepte, ces émotions, finalement?
Alors, je pense que justement, on a ces croyances que les émotions, il faut les cacher, il faut les mettre de côté. C'est en fait le meilleur moyen. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, comme on ne les connaît pas très bien, parce qu'en fait, on n'a jamais eu de cours sur les émotions, c'est un peu brouillon pour tout le monde, bah, on ne sait pas. Donc, l'inconnu fait peur. Donc, on se dit, bah, il vaut mieux pas en parler. Et tu vois, même sur la tristesse, il y a souvent cette idée que si j'ouvre la vanne, ça va plus s'arrêter. Alors que bah, non, en fait. Ça, c'est des idées reçues.
Alors, comment on les accepte, ces émotions? Comment on pourrait apprendre à vivre avec?
Je pense déjà savoir les identifier.
Ouais.
Tout simplement de déterminer les 6 émotions primaires. Donc, pour les citer, il y a la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Je trouve que déjà d'avoir dans son panel connaissance de ces 6 émotions, ça va nous permettre de plus facilement les identifier. Après, c'est de prendre une pause, tout simplement, c'est de respirer, de se dire « Ok, là, qu'est-ce que je suis en train de ressentir ?» Même si on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, déjà, de se poser cette question, c'est énorme. Et puis après, ça va partir sur le corps. Donc, ça dépend de la connexion qu'on a à son corps, l'écoute qu'on a à son corps. Mais justement, de se dire « Ok, je ressens un truc. Bah, là, je sais pas, je sens qu'il y a un truc dans mon ventre. Je dirais que je me sens un peu brassée. Ok, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est de la peur. Ok, j'ai peur de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée ? Ah ouais, ok, c'est ça, j'ai peur. J'ai peur de rendre cet examen, j'ai peur d'un oral demain. Déjà, ça, c'est énorme, en fait. Et après, pour chaque peur, la peur, les émotions, ça vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Donc, chaque émotion, en fait, c'est comme un message qui nous est donné, à nous de le lire ou pas. Mais chaque émotion va nous apporter une information.
Et donc, on va se concentrer sur la peur, qui nous mène donc souvent à l'inaction, en se disant qu'il y a trop de risques ou qu'on n'est pas capable. Comment on peut la gérer, cette peur, pour que elle ne soit pas source d'inaction, mais qu'au contraire, elle devienne un moteur pour nos projets et dans notre vie en général?
La peur, on a trois façons d'y réagir. Soit, comme tu dis, il y a la tétanie. Voilà, on bouge pas, on reste figé. Soit on est dans l'attaque, la dynamique, soit on est dans l'évitement. Notre corps, il va souvent chercher à faire ce qui est le moins énergivore. Donc l'évitement, la tétanie, ça peut souvent être la première solution. Déjà de prendre conscience de ça. Tu vois, la procrastination, par exemple.
Oui.
Tu procrastines un truc, c'est de l'évitement. Hein. Alors là-dessus, il y a sur la procrastination, et du coup, ça peut être, on peut le généraliser en fait sur la difficulté à faire et à se mettre en action. C'est que sur quelque chose que j'ai tendance à procrastiner, soit c'est parce qu'il n'y a pas d'envie. Et l'envie, elle vient d'où? La plupart du temps, c'est parce que ça ne fait pas sens pour moi. Donc peut-être déjà de se poser cette question. Après, on peut aussi identifier une peur, alors je l'ai, et chez les nouvelles générations, elle est assez fréquente, c'est la peur d'appeler, de passer un coup de téléphone. En fait, le fait de l'identifier, déjà, tu peux mettre un mot dessus et tu te dis, moi, typiquement, quand j'ai des appels, parce que j'ai tendance à procrastiner, alors pas n'importe quel appel, mais voilà. En fait, je vais avoir tendance à le mettre au début de ma liste. Et comme ça, c'est fait. Et de noter, tu vois, on a peur à l'idée d'eux, mais concrètement, qu'est-ce qui peut se passer d'appeler, un psychiatre ou là, pour mes exemples, mais pour les exemples des plus jeunes, ça peut être tout simple, mais un rendez-vous chez le coiffeur ou un rendez-vous chez le médecin, maintenant, même si ça se fait beaucoup par Internet. Mais du coup, en fait, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je risque? Et alors, si j'appelle? En fait, la plupart du temps, ça diminue la peur. Et puis, de mettre du sens. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question.
Très bien, c'est nickel. 15 à 20% de la population est hypersensible. J'ai vu ça sur ton site.
Ouais.
C'est beaucoup.
C'est énorme.
Peut-être que je le suis sans le savoir. Peut-être que celles et ceux qui nous écoutent le sont aussi. C'est quoi l'hypersensibilité? Comment elle se caractérise dans notre quotidien?
En fait, on en parle beaucoup, je trouve, de l'hypersensibilité ces dernières années. Pour moi, il y a une distinction à faire entre hypersensibilité et hyperémotif.
Okay.
Hypersensibilité, c'est les sens. Donc, quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui va justement peut-être avoir une sensibilité particulière au niveau de l'audition. Ça peut être souvent une gêne, tu vois. Et c'est des personnes qui vont être très sensibles à certains bruits et qui, du coup, vont avoir besoin justement de s'isoler. Quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de brouhaha, ils vont vouloir retrouver du calme. Ça peut être au niveau des odeurs, même la vue. Donc ça, c'est vraiment au niveau des cinq sens. Et puis ensuite, on a l'hyper-émotivité, où là, du coup, c'est les émotions qui sont à vif. Autant dans la joie, par exemple, qui est une émotion plutôt agréable. Mais du coup, ça va aussi se ressortir dans la colère, la peur. Ça va avoir tendance à exploser.
Pour toi, l'écriture est une thérapie qui nous aide à avancer. Et on en parlait toutes les deux, là, que tu ressentais le besoin d'écrire pour telle ou telle chose. En quoi écrire peut nous aider à y voir clair?
Alors, le fait d'écrire, il y a plein d'études qui mettent en avant les bienfaits. Je pense qu'en effet, le fait de prendre du temps pour soi, c'est énorme. Et après, on a souvent dénigré le journal intime parce qu'on le rapproche beaucoup à l'univers de l'adolescence. Mais en fait, c'est passionnant, un journal intime. Toi, t'en as?
Oui, j'en ai. J'écris dedans presque tous les matins.
Ah, génial. Et est-ce que t'en écrivais quand t'étais ado?
Aussi, mais pas de la même façon.
Ok.
Pour le coup, c'était vraiment ma vie quand j'étais ado. Enfin, ma vie dans tous les détails.
Ouais.
J'ai vu tel garçon ce midi, j'ai mangé avec lui, waouh et tout, il m'a regardé. Alors que là, c'est plus des ressentis que j'écris sur comment je me sens, où j'en suis, etc. Mais toujours.
Moi, je trouve ça fascinant, puis ça laisse une trace. Tu vois, tu peux te reconnecter à la Victoria, de 12 ans. Et
tu vois ton évolution.
Ah ouais, moi, je trouve ça fascinant. Donc, de laisser des traces. Et en fait, d'écrire, tu le dis, ça te permet même d'aller plus loin dans tes réflexions, de conceptualiser, de prendre de la distance, de décharger aussi. On a tendance à trop garder, à mentaliser, et les émotions, justement, elles nous invitent à décharger, à accueillir. Donc, l'écriture, c'est facile, entre guillemets, à mettre en action. Mais je pense qu'on ne s'autorise pas suffisamment à écrire. Je généralise, mais de prendre le support qui nous convient le mieux, stylo, cahier ou de façon informatique, les deux fonctionnent.
Mais je sais qu'il y en a certains qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent aussi « je ne sais pas écrire, en fait, j'écris pas bien ». Mais justement, écrire pour soi, c'est écrire de la façon dont on veut. Si on a envie d'écrire putain, on écrit putain, tu vois. C'est vraiment, il n'y a pas de règles et il n'y a pas à écrire comme un poète pour pouvoir se décharger. Et en parlant d'écriture, tu animes un blog et tu as écrit un petit article sur les erreurs. Donc, on en parlait tout à l'heure. Nous y voici. Et une de tes collègues a dit « plus tu te plantes, plus tu t'enracines ». J'ai beaucoup aimé cette phrase.
Ouais.
Pour toi, c'est quoi de se tromper?
C'est apprendre,
tout simplement.
Tout simplement. Quand on repense à un petit bébé, nous on n'a plus ces souvenirs là, mais quand tu vois un bébé se casser la gueule un million de fois, bah ouais, en fait on passe par là. Si on regarde justement nos écrits, nos cahiers de CP, on savait pas vraiment écrire quoi. Je me rappelle, je faisais des vagues avant d'aller à l'école. J'avais trop hâte d'écrire. Donc ouais, en fait, les erreurs font partie de l'apprentissage et adulte, mais même ado, on a ce truc où il faudrait tout de suite réussir du premier coup. Et ben non, en fait, faut se tromper, faut essayer, faut expérimenter quoi.
Et à la petite Mathilde ado, qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui ?
Fais-toi confiance. Et il y a une phrase de mes parents qui me revient, qui m'a énormément aidée. Du coup, peut-être qu'elle pourrait résonner. Chez certains auditeurs et auditrices. Mes parents m'ont souvent répété « t'inquiète pas », parce que parfois je rentrais de l'école en pleurs quand même.
Ah oui, à ce point-là, ouais.
Ouais. Bah, en fait, j'aimais trop apprendre et j'avais vraiment, je pense, l'impression de comprendre, mais les notes, elles n'étaient pas là, quoi. Et du coup, mes parents me disaient « t'inquiète pas, tu sais quoi, t'as des qualités qui ne sont pas notées dans ton bulletin, mais plus tard dans ta vie, eh bien, elles te seront utiles ». Et en fait, tu vois, je gardais ça. Je pense pas qu'ils me l'aient répété des millions de fois, mais c'est resté ancré et ils m'ont fait confiance et je leur faisais aussi confiance dans ces mots-là. Et ouais, je répéterai ça à la jeune Mathilde.
C'est beau d'avoir des parents comme ça qui t'ont encouragé.
Je trouve ça fou, en fait, qui m'ait fait autant confiance.
Ouais, c'est ça. Parce que souvent, enfin, il y a des parents qui vont un peu dans le sens aussi des professeurs, surtout quand on est petit, qui se disent « bah oui, peut-être que ma fille a un problème ». Donc c'est vraiment une chance que tu as eue, je pense. Il y a une phrase qui te tient à cœur, je crois. Qui est de mettre de l'extraordinaire dans son ordinaire. Comment on met de l'extraordinaire dans notre ordinaire, du coup, au quotidien ?
Bah, oser, rêver, s'autoriser. On parlait justement de mon arrivée sur Biarritz. Et je pense que de s'autoriser à aller au-delà de ce qui nous est demandé, d'innover. J'aurais pu très bien me dire, attends, t'es à Lyon, t'as un cabinet qui cartonne, j'avais une collaboratrice, j'avais mes habitudes même dans ma vie perso, quoi. Et tu vois, de s'autoriser à dire, bah ouais, peut-être que ça se fait pas vraiment de lâcher un cabinet au bout de 4 ans, mais je sens que c'est pas ça où je dois aller, c'est pas ça vraiment qui fait sens pour moi, on revient à ça. Un bon leitmotiv de cet épisode. Et ouais, d'oser rêver et de s'inspirer aussi. Ouais. D'identifier les personnes qui nous inspirent, leur poser des questions, bah ce que tu fais, tu vois. Et je trouve ça génial de rencontrer toutes ces personnes.
Qu'est-ce qui t'inspire toi au quotidien ?
Il y a tellement de personnes qui m'inspirent. Une personne en particulier ?
Une personne ou une chose ? Où est-ce que tu trouves l'inspiration en général ?
Franchement, dans les personnes qui m'entourent, les personnes les plus proches.
Là, récemment, une personne qui t'a particulièrement...
Toi ? Ah si, tu m'inspires, je l'ai déjà dit, mais d'oser... Ouais, franchement, t'as du culot et je trouve que c'est génial. Mon amoureux, au quotidien, il m'apporte j'ai énormément d'admiration pour lui. Mes amis aussi, mais tu vois, même dans des petits choix, mes amis les plus proches, là, j'en ai plein qui me viennent en tête. Et ouais, je trouve que c'est... Ouais.
T'as parlé de ton amoureux, alors on va pas rentrer dans les détails de votre rencontre, etc. Mais votre histoire est fabuleuse.
Ouais.
J'ai eu la chance que tu me la racontes tout à l'heure. J'aimerais te poser une question donc sur l'amour. Pour toi, c'est quoi l'amour et comment on gère ça quand on est jeune ?
Wow.
C'est un peu un truc hyper mystérieux.
Qu'est-ce que l'amour ? Franchement, faudrait que j'écrive je sais pas si je suis la bonne personne pour y répondre. Je pense que c'est subjectif. Un truc que je dis souvent à mes patients, c'est que en amour, il y a pas de règles. Et tu vois, on a plein de croyances. Je vais essayer d'en donner quelques-unes pour que ce soit plus clair à comprendre, mais je sais pas. À partir d'un certain âge, on ne peut plus rencontrer personne.
À 30 ans, il faut absolument que tu sois casée.
Ouais, voilà, il y en a tellement que du coup, là, j'en ai pas énormément qui m'arrivent. Mais il y a plein de croyances autour de l'amour. Et en fait, de ce que je peux voir de par mon métier, de par mes lectures, de par mes rencontres, c'est que clairement, il n'y a pas de règles. Et que du coup, ça nous donne un champ des possibles de créer nos propres règles. Donc si dans ton couple, pour toi, ça te semble important de vivre la même passion avec ton amoureux ou ton amoureuse. Et ben let's go. Si au contraire toi tu te vois plutôt avoir vraiment ton concon, ton appart, ta maison et que ton ou ta partenaire et son espace, bah en fait tout est possible. Et du coup de pas se cantonner à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on attend de nous, mais de juste sentir ce qui est bon pour nous. Franchement Voilà, l'amour, ouais. L'amour, en fait, a tellement de facettes et je trouve que parfois, on s'interdit des choses, ouais. Donc, d'oser de liberté, de s'écouter. Et après, pour les plus jeunes, mais c'est fabuleux, en fait, toutes les rencontres qu'on peut faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais parfois, on dénigre un peu, on minimise les relations amoureuses chez les plus jeunes. Alors que, oh là là, mais c'est tellement puissant, l'amour, à cet âge-là, et ça te fait faire des trucs de fou. Et donc, ouais, de vivre à fond. À fond, même si on ne sait jamais, en fait. C'est ça qui est fou dans l'amour. C'est qu'on ne sait jamais. Mais à tout âge. Hein.
Oui, bah c'est sûr. C'est vrai que oui, tu me demandais mon avis, mais les relations, quand on est plus jeune, souvent, on ne nous prend pas au sérieux.
Non.
Moi, je sais que j'ai eu quelques petites relations quand j'étais au collège, lycée. Et mes parents me disaient, bah, ça ne va pas durer, t'es jeune, tu vois. Sauf que je connais des personnes dans mon entourage qui se sont rencontrées en quatrième, qui sont encore ensemble aujourd'hui. Donc, ouais. Si, ça peut être sérieux.
Mais tu vois, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui vont se rencontrer super tôt et qui vont durer super longtemps, d'autres pas. Il y en a qui vont se rencontrer sur le tard. Il y en a, ils vont avoir plusieurs amours dans leur vie. Il y en a qui croient aux âmes sœurs.
Ouais.
Tout est possible.
Bon sujet.
Ah ouais, franchement, là, on pourrait... Ouais.
Et le bonheur, c'est quoi pour toi, Mathilde?
Le bonheur.
Et c'est hyper drôle. Ah ouais, non, mais non, je te rassure, pratiquement tout le monde bug à cette question. Hein. Et souvent, enfin, ceux qui s'intéressent au podcast savent que je pose cette question. Mais à chaque fois, elle fait bugger les gens.
Tu sais qu'une fois, sur mon vélo, j'écoutais ton podcast, je me suis fait la réflexion, oh, qu'est-ce que je répondrais, alors que je n'avais pas du tout
que tu allais m'inviter.
Et bah, je sais pas.
Franchement, je trouve que c'est compliqué. Le bonheur. Le bonheur. je pense qu'on en fait souvent une quête. Tu vois, un truc un peu d'intouchable et en fait, le bonheur, c'est peut-être aussi le résumé de ce qu'on va, comment dire, tout ce qu'on va faire dans une journée, tu vois, ces petits trucs, ça me fait penser au livre de Florence Servan-Schreiber, Les trois kiffs par jour. Tu vois, cette capacité à justement des tout petits riens, d'en faire quelque chose d'énorme, quoi. C'est une, encore, voilà, si mes parents écoutent ce podcast, ils vont être fans. mais ouais, je pense qu'ils nous ont appris à s'émerveiller d'un rien, en fait. Et garder cette âme d'enfant avec mon amoureux, c'est ce qu'on a vraiment en commun tous les deux. C'est cette âme d'enfant qu'on va s'émerveiller d'un rien et que du coup, le bonheur, il peut être en permanence avec justement ce plaisir que ça va venir générer. Qui est éphémère, mais rien qu'à l'idée d'y repenser ou même de te projeter à l'idée de faire une activité, c'est génial.
Mettre de l'extraordinaire dans notre ordinaire.
Bah ouais, on y revient.
Voilà. Je crois que ça va être le titre du podcast. Tu vois. Mathilde, la question, la fameuse question du podcast de la fin. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui?
J'aimerais parler de sérendipité.
Oula.
Ouais.
Je connais pas ce mot, mais tu vas nous expliquer.
Ça vient de l'anglais serendipity.
Ok.
Que j'ai découvert pendant un stage en psycho.
D'accord.
La serendipité, c'est l'innovation dans le hasard. On le retrouve dans la cuisine notamment, on le retrouve dans la recherche, dans les médicaments. La tarte à tin, par exemple. Tu vois, j'imagine... Alors, il y a sûrement d'autres histoires, mais moi, j'imagine les deux sœurs Tatin, du coup, dans leur cuisine. Elles font une tarte et la tarte tombe. Elles auraient pu très bien se dire, bah merde, on s'est trompé, on va recommencer, on va acheter, on va recommencer. Eh ben non. Elles ont fait de ce hasard une innovation. Elles ont recouvert la tarte.
Ah, mais je savais pas. Je connaissais pas l'histoire de la tarte Tatin.
Bah, je suis sûrement en train de la déformer un peu de... Voilà.
Ouais, ouais, mais... non, mais tu dois avoir le cœur du sujet, enfin, du truc quand
je
même.
Je crois que je l'ai lu, en fait, il y a pratiquement maintenant 10 ans. Hein, donc,
elle est incroyable, cette histoire.
Et en fait, ça m'a énormément marqué, l'histoire de la sérendipité, parce que je trouve que c'est une philosophie de vie. Avec mon père, on en parlait, et lui, il a une image assez humoristique. Il dit que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin et trouver le fermier, la fermier, comme vous voulez. En fait, c'est d'avoir un objectif, des objectifs, c'est super dans la vie. Mais de tracer un trait tout droit entre là où je pars et où j'arrive, clairement, c'est pas possible. Donc, soit on fait pas du coup, et on reste complètement dans la tétanie, comme tu le disais, soit justement... En fait, ça va ressembler à un peu un zigzag, voilà, fourre-tout. À la rigueur, soit on arrive à notre objectif, soit on n'y arrive pas. Au final, c'est pas ce qui sera le plus important, mais c'est justement tout ce qu'on aura expérimenté. Tout ce qu'on se sera autorisé à vivre, en fait. Et voilà, l'innovation dans le hasard.
Waouh, j'adore. Génial. Bon, on va s'arrêter là, Mathilde.
Ça marche.
Sinon, ça va durer encore. Ça pourrait durer longtemps.
Ouais, ça pourrait durer longtemps.
Donc, on va couper. Merci beaucoup pour tous tes partages.
Merci
à
toi.
On va continuer de discuter.
Merci, Victoria.
Salut, Mathilde.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.